Qui ne dit mot consent. On a toutes et tous déjà entendu cette expression. Le consentement, on entend ce terme un peu partout, mais comprenons-nous toujours ce qu'il signifie et surtout toutes ses implications. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, on va s'intéresser à la traditionnelle définition. D'après le dictionnaire en ligne Larousse.fr, le consentement, c'est l'action de donner son accord à un projet. Comme synonyme, on a acquiescement, approbation, assentiment. Le consentement, c'est donc l'action de dire oui. Mais si la définition semble claire, elle ne dit rien sur les modalités du consentement, sur le contexte dans lequel celui-ci se réalise. Parce que, il faut bien l'avouer, dans la réalité, derrière une définition qui semble finalement assez simple, il y a tout un tas de questions en suspens. Par exemple, est-ce que le consentement doit toujours être verbalisé ou est-ce qu'il peut être tacite? Autre exemple, est-ce que l'observation des comportements, des attitudes corporelles et des comportements non-verbaux valent consentement? Autrement dit, est-ce que je sais que la personne en face de moi consent à ce que je lui demande rien qu'en l'observant? Donc toutes ces questions et bien d'autres encore prouvent que derrière une notion apparemment simple se cache une réalité bien plus complexe. J'ai voulu faire cet épisode de podcast après avoir lu le livre de Vanessa Springora qui s'appelle « Le consentement » et qui est paru aux éditions Grasset en 2020. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille vivement. C'est un témoignage de vie bouleversant et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est que l'auteur met en lumière un phénomène dont on parle peu, et ce phénomène, c'est le rôle de l'entourage qui parfois participent directement au fait que les abus sur la victime continuent et s'intensifient. Alors, on aura l'occasion de revenir sur la question du rôle de l'entourage dans le maintien des relations toxiques, mais en attendant, je vous conseille d'aller lire le livre de Vanessa Springora pour déjà vous faire une idée du problème. Alors on va parler maintenant du terme « victime consentante » pour montrer que ce terme, c'est un mythe persistant. Il y a toujours une question que je me pose lorsqu'on me parle de victime consentante. Et cette question, je vais vous la poser. Est-ce que quand vous avez en face de vous une victime de braquage, de vol à l'arraché, est-ce que vous lui demandez si elle a consenti à son agression ? Alors je sais que pour la plupart, la réponse est évidente, et c'est bien sûr, non, ça ne me viendrait jamais à l'esprit. Eh bien pourtant, c'est une des questions qui, plus ou moins explicitement, surgit lorsqu'une victime d'agression sexuelle, de viol et même d'inceste parle des abus qu'elle a subis. Alors disons-le tout net, pour moi, mais il n'y a pas que pour moi, pour beaucoup de criminologues, la notion même de victime consentante est une notion toxique. Elle est toxique parce qu'elle laisse penser que les victimes de violences sexuelles, à l'inverse de toutes les autres victimes, sont toujours un peu consentantes à leur malheur. Qu'elles y sont toujours un peu pour quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Elle l'a un peu cherché. Elle a dit oui. Et puis elle a changé d'avis, ça prouve qu'elle était consentante. Ce genre de phrase, ce n'est qu'un échantillon des propos qu'on entend souvent à propos des victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Alors petit rappel, qui va de soi mais ça va mieux en le disant, on peut consentir à une relation sexuelle, on ne consent jamais à une agression sexuelle. Parce que l'attaque sexuelle, qu'il s'agisse d'agression ou de viol, est une atteinte psychocorporelle qui entraîne un traumatisme neurobiologique. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le corps de la victime qui va être atteint. Si l'agression sexuelle est une négation du territoire corporel de l'autre, parce que le corps de la victime devient la propriété d'un tiers qui s'autorise à en disposer à sa guise, c'est avant tout un processus de déshumanisation totale. Car le viol physique est aussi un viol psychique qui va mettre à mal toute l'identité de la victime. Entre les mains de son agresseur, la victime devient un objet dont il peut user et abuser sans compter. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, une petite précision terminologique pour qu'on s'entende bien. Quand je parle d'agresseur, je parle tout autant des hommes que des femmes. Parce que oui, c'est un énorme tabou, mais les femmes agressent aussi. Et croyez-moi, certaines femmes se foutent tout autant de la notion de consentement que certains hommes. Les agressions sexuelles reposent sur des mécanismes de contrôle de l'autre et de dépersonnalisation de la victime par l'agresseur. Alors, ce qui caractérise toute agression, c'est son caractère rapide, violent, prenant totalement au dépourvu la victime. Souvent, la victime, elle n'a ni le temps, ni l'espace pour réagir, et encore moins de temps et d'espace pour consentir à quoi que ce soit. Le principe même d'une agression repose sur le fait que l'agresseur ne demande pas son avis à la victime. Et c'est pour ça que c'est totalement absurde de parler de victime consentante. On ne peut pas en même temps être victime et être consentante. Ces deux notions s'annulent l'une et l'autre. Lorsqu'on est soudainement placé dans une situation de danger, on a en général trois stratégies qui s'offrent à nous. Alors en anglais, on appelle ça « fight », c'est-à-dire se défendre physiquement et psychologiquement, c'est-à-dire par exemple se battre, rendre les coups, ou « flight », c'est-à-dire partir, quitter les lieux le plus rapidement possible, donc fuir, ou « freeze », c'est-à-dire littéralement geler sur place, ou comme on le dit en langage technique, être en état de sidération. Et même si ça paraît totalement inadapté, ben c'est souvent l'état de sidération qui prend le pas sur toutes les autres. Le caractère rapide et souvent imprévisible de l'agression, la peur d'être blessé mortellement, c'est ce qui explique, entre autres, que les victimes disent souvent qu'au moment de leur agression, elles n'ont pu ni bouger, ni crier. Et c'est ça qui est un peu dégueulasse, en fait, dans le sujet des violences sexuelles chez les adultes. C'est que quand on est adulte, il y a toujours ces mythes injustes et injustifiés qu'on peut parler, qu'on peut s'exprimer, qu'on peut crier et se débattre. Le problème, c'est qu'en situation d'agression, ben c'est un stéréotype. Évidemment, c'est toujours plus facile lorsqu'on est assis le cul sur une chaise de penser ce que les autres auraient dû faire dans une situation d'agression. Et de se dire « Ah ben moi, si ça m'arrivait, évidemment, je riposterais, évidemment, je crierais. » Mais dans la réalité, encore une fois, une agression, en règle générale, c'est quand même quelque chose qui vous tombe dessus, vous ne le voyez pas venir, et donc pour réagir, encore faut-il avoir l'espace et le temps pour le faire. Et dans une situation d'agression, eh bien cet espace et ce temps sont précisément ce qu'il manque à la victime. Alors une petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, si cet épisode vous aide, mais que vous voulez aller encore plus loin pour combattre les manipulations, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisedocument.com. C'est là que je réponds à vos questions et que je vous donne encore plus d'informations et de conseils. À tout de suite sur expertisedocument.com. Arracher un consentement par la force ou par la ruse, mentir pour en obtenir un, c'est manipuler l'autre. Et manipuler l'autre, c'est toujours le signe qu'une relation est toxique. Alors, on va le redire une nouvelle fois. Il n'y a pas de victime consentante. Aucune victime de violence, quelle qu'elle soit, ne devrait avoir à répondre à la question « Étiez-vous consentante ?» Parce que cette question, elle est absurde. Encore une fois, dans le cas des agressions sexuelles, il est important de comprendre qu'on peut très bien consentir à une relation sexuelle, on ne consent jamais à une agression sexuelle. Si cet épisode vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.